Bienvenue à Escal 16-17 avec Fulgence Blaomico. Oui, un peu de jus, s'il te plaît. Voilà, merci pour que je... Bienvenue à Escal 16-17 avec Fulgence Blaomico. Là, mon invité est totalement... est déjà au bout du fil, il faut le dire. On va parler d'un très beau spectacle qui va se dérouler bientôt le samedi 29 au Théâtre Autremont. C'est la grande chanteuse de gorge, Lydia Etok. Voilà, elle est co-directrice artistique aussi, Dr. Oiko, volée autochtone. C'est pour nous parler du spectacle Saïmanik, chant des gorges inuites en symbiose avec la nature. Bonjour Lydia.
Bonjour, bonjour. Allô, est-ce que vous m'entendez?
Allô?
Oui, vous m'entendez? Allô?
Allô?
Est-ce que vous m'entendez? Allô?
Allô, oui, vous m'entendez maintenant?
Oui, je vous entends.
Ah, oh, merci, moi aussi je vous entends maintenant, tant mieux alors.
Ok, parfait.
Alors, je suis très content de vous revoir pour parler de ce beau spectacle qui arrive ce samedi 29 octobre au Théâtre Autremont pour nous parler de la symbiose avec la nature. Alors, comment est-ce que Lydia est prête pour l'événement?
Oui. Toujours prête.
Oui, toujours prête.
Ben oui.
Saïmanik, qui veut dire quoi?
Ça veut dire paix en Inuktitut dans ma langue maternelle.
Oui.
Ouais.
Wow.
Oui. Donc, on joue avec des musiciens qui jouent des instruments qui viennent d'un peu partout dans le monde.
Oui.
Je fais les chants de gorge avec Nina Sigalowitz normalement, mais puisqu'il y a eu des d'autres engagements, elle ne sera pas là, mais on va avoir Nancy Saunders avec nous.
Oui.
Donc c'est avec elle que je vais faire les chants de gorge ainsi que des musiciens qui jouent leurs instruments comme le oud, on a le violoncelle, Michel Dubois qui joue des flûtes, des percussions. Ça va être... j'ai bien hâte.
Wow! Expliquez-nous un peu pour ceux qui ne savent pas du tout ce que c'est que le chant de gorge. Moi, je sais ce que c'est. Je vous ai déjà écouté plusieurs fois. J'ai écouté l'album d'Orto Eto, Orto Eko, okay. En entier.
OK, ben merci. Ça fait chaud au cœur.
Ouais, expliquez-nous. J'adore cet album-là. Et puis d'ailleurs, je serai au spectacle de ce samedi-là, au théâtre Autremont.
Excellent.
Voilà. Expliquez-nous un peu pour ceux qui ne le savent pas.
C'est les chants de gorge pour les Inuits. C'était dans le temps où les Inuits vivaient encore dans des igloos. Aujourd'hui, on a des maisons et tout, mais avant ça, c'était un passe-temps pour les femmes.
Oui.
C'était un jeu, une compétition entre deux femmes.
Ah bon?
Oui.
Ouais, allez, si je vous écoute.
Oui, c'est puisque c'était une compétition entre deux femmes, il faut chanter le plus longtemps possible.
Mais une compétition amicale vocale.
C'est amical. Oui. Il y en a une qui commence en premier, l'autre suit. On fait des sons, on change les sons qu'on fait, puis on augmente la vitesse ou on diminue la vitesse. Ça, c'est pour essayer d'augmenter nos chances de gagner, puisque c'est une compétition.
Oui.
C'est de chanter le plus longtemps possible.
Oui. Wow.
Ce sont des imitations de la nature qu'on fait. Le vent, la rivière, les animaux.
Wow.
Puisqu'il n'y avait pas d'autres sources... entertainment, d'autres sortes
de distraction.
Oui, exact. Mm. Donc, c'est ce que les femmes faisaient, alors que les hommes, eux, ils racontaient des histoires en utilisant leur tambour. C'était un moment pour les Inuits lorsqu'ils se rencontraient.
Oui.
Les groupes se rencontraient. Donc, c'est une tradition qui date depuis longtemps.
Mm.
On a failli perdre cet art.
Oui.
Parce que lorsque les frères sont arrivés dans le Grand Nord, c'était quelque chose de très bizarre pour eux. Donc, puis ils croyaient que c'était, il y avait un rapport avec la religion, alors que ce n'était pas le cas. Donc, ils ont interdit les aînés, les femmes de faire les chants de gorge. Donc, c'est comme ça. Les femmes le faisaient en cachette.
Oui,
c'est
oui.
Une chance parce que la tradition a pu survivre.
Comme partout où ils sont passés d'ailleurs.
Oui.
Ouais.
Ouais. Donc, c'est ça. Donc, c'est quelque chose qu'on pratique pour comme passe-temps, pour s'amuser, puis aussi pour partager une partie de notre culture.
Mmh. Et comment se passe, comment est-ce que Lydia est arrivée au sein de Octo Echo? Comment vous êtes arrivée là à la collaboration avec Katia et autres?
Oui, ben là,
cette complicité musicale et culturelle.
Ben, j'ai jamais imaginé qu'on aurait un projet qui a épanoui de même, parce que moi, la première fois, j'ai vu Katia, c'est ma partenaire de chant de gorge, Nina, qui m'a invitée pour faire un spectacle avec Katia et d'autres musiciens. Moi, je croyais que c'était pour une fois, puis après c'était fini. Mais non, il y a eu une très belle collaboration.
Oui.
Puis on a développé des projets par la suite.
Mmh. Ça se sent dans vos pièces musicales d'ailleurs, du groupe Otto Echo, ça sincèrement il faut le dire. Et comment se fait la transmission de cette tradition, de cette culture à la nouvelle génération? Comment elle se fait actuellement, puisqu'il n'y a plus d'interdiction? Comment elle se fait? Est-ce que la nouvelle génération dit « Oh, moi aussi, j'ai envie d'être chanteur » ou bien chanteuse, parce que c'est les femmes qui le font.
Hein. Oui.
Est-ce que j'ai envie d'être chanteuse de gorge? Est-ce que ça, la nouvelle génération est intéressée, ou bien comment est-ce que vous arrivez, vous, qui le faites déjà, à les motiver pour pouvoir essayer de conserver la tradition, la culture?
Mais moi, j'ai grandi dans le Grand Nord, dans un village qui s'appelle Kanyarsualutjuaq.
Oui.
J'ai entendu des échos de chants de gorge, mais j'ai jamais entendu ou vu en personne quand j'étais plus jeune.
Oui.
C'est seulement lorsque j'étais rendue au cégep, ici à Montréal.
Oui.
Pas de cégep au-dessus de 55e parallèle, donc faut descendre à Montréal pour pouvoir poursuivre nos études.
Oui.
C'est là que j'ai rencontré une amie qui vient de Pouvernitouk.
Oui.
Durant les fêtes, durant l'été, on pouvait retourner chez nous pour passer le temps avec la famille.
Oui.
Donc, Sarah est allée chez elle durant les fêtes, puis sa grand-mère l'a commencé à enseigner.
Oui.
Puis rendue à Montréal, elle n'avait personne avec qui elle pouvait pratiquer. Donc, elle a commencé à m'enseigner pour qu'elle puisse pratiquer. Puis c'est comme ça que j'ai appris.
Oui.
Et depuis ce temps-là, on a commencé à recevoir des demandes de faire des présentations sur la culture inuit. Puis on faisait des chants de gorge. Mmh. Puis de là, c'est comme ça que ça a commencé.
Bravo.
Puis aujourd'hui, on a de plus en plus de femmes qui font des chants de gorge. Lorsqu'il y a des événements, des rencontres, on voit toujours des chanteuses de gorge.
Oui.
Puis les plus jeunes, celles qui sont intéressées d'apprendre vont aller voir directement les personnes puis demander d'être enseignées. Puis c'est comme ça qu'on fait la transmission.
Est-ce qu'il y a un équivalent du chant de gorge chez les hommes dans la culture?
Chez les Inuits, non.
Ah, moi, d'accord.
Non, c'est seulement les femmes qui le font.
Est-ce qu'ils le font? Ils doivent avoir d'autres manières de faire leur compétition, les hommes.
Mais pour les hommes, la compétition qu'ils faisaient, il y avait plusieurs façons de faire une compétition en utilisant leur tambour.
Oui.
C'est d'essayer de faire rire le groupe.
Oui.
En faisant, en moquant des autres.
Ah, bon, d'accord.
Oui, en chantant.
En chantant avec des paroles humoristiques, quoi, de l'humour là-dedans, voilà.
Oui, oui.
Une manière de taquiner l'adversaire et le provoquer en même temps.
Exactement, c'était très important. Puis aujourd'hui encore, l'humour, le fait de rire, c'est très important pour les Inuits encore.
Oui. On va écouter, Lisa, on va écouter une petite partie de votre voix qui vient de la gorge, bien sûr, avant de continuer la petite conversation.
Ok.
Lydia, vous savez, bravo, merci. Vous savez quoi, j'ai essayé de vous imiter chez moi, j'ai pas réussi. J'ai pas du tout réussi. Si elle était à côté de moi, elle allait se moquer de moi. Mais quand vous chantez comme ça, concernant la respiration, comment vous respirez en même temps?
Oui, la respiration est très importante lorsqu'on fait les chants. On utilise la voix, les cordes vocales et la respiration. On inspire, on expire, ça fait partie des sons qu'on fait.
Oui.
Donc, ça facilite beaucoup le mélodie qu'on doit produire lorsqu'on chante avec un autre.
Oui.
Faut avoir le contrôle de l'air qui rentre et qui sort, sinon... ça devient difficile.
Ça devient difficile de continuer, ouais. Ouais. Alors, à quoi on s'attend ce spectacle de ce samedi 29 octobre au Théâtre Outremont?
Comment?
À quoi on s'attend, nous qui allons nous déplacer, à quoi devons-nous attendre à ce beau spectacle? Moi, je sais que ça va être beau. Je sais que ça va être beau. Quelle est la surprise que vous nous réservez? Si vous nous le dites maintenant, ce n'est plus une surprise. Mais brossez-nous un peu en gros ce beau spectacle qui va arriver ce samedi-là.
Oui, pour ceux qui n'ont jamais entendu les chants de gorge, si vous avez déjà entendu les chants de gorge à la radio, à la télé ou pas en personne, lorsque vous écoutez les chants en personne, c'est complètement différent. Il y a tout un niveau plus élevé lorsqu'on regarde les chants. Ça, c'est d'après les feedbacks, les commentaires que j'ai déjà eus des personnes qui ont entendu les chants de gorge à la télé ou sur l'Internet. Et en personne, c'est autre chose.
C'est comme le jour et la nuit. C'est deux mondes complètement différents.
Oui, tout à fait. Tout à fait. J'ai même eu des commentaires des personnes qui ont été touchées profondément où les personnes ont they cried. Ils ont commencé à pleurer puis ils savaient pas pourquoi.
Wow.
Donc, c'est des réactions que moi, j'ai jamais attendues, mais c'est ce que j'ai eu comme commentaire des gens qui sont venus voir les spectacles en personne. Donc, c'est vraiment aux spectateurs présents qui... ils ont une expérience qui est complètement différente de... c'est spécial.
C'est spécial, voilà. Et puis, selon l'information que j'ai reçue, cette création originale autour du Katajak, c'est bien dit, Katajak?
Oui.
Chant de gorge, voilà.
Oui, Katajak.
Voilà, ce concept qui va évoquer les espaces désertiques et transporter l'auditeur dans un sentiment de liberté et d'espace de infini. Waouh. C'est toute une poésie, ça.
Oui, c'est une poésie, mais lorsqu'on écoute les pièces, moi-même, quand je fais les chants de gorge, je fais les pièces avec les autres musiciens, ça m'amène ailleurs.
Oui.
Donc, vous pouvez, you let yourself go, vous laissez aller.
On se laisse aller.
Oui, avec ce que vous entendez, puis pour moi, en tant qu'inné qui a vécu dans le Grand Nord, j'habite à Montréal aujourd'hui parce que je retourne chez nous de temps en temps et pour mon travail aussi.
Oui.
C'est quelque chose qui amène, it's rejuvenating, ça amène une énergie qui est renouvelée d'une certaine façon.
J'ai bien hâte.
Oui, vous êtes dans un espace où vous pouvez voir de loin, puis c'est chose avec les autres avec qui je fais les pièces, viennent de d'autres cultures.
Oui, oui.
D'espace infini, puis on mélange tout ça, puis les pièces que Katia a composées sont vraiment spéciales.
Oui, c'est des pièces spéciales, quoi. Bon, donc, ça va être un vibrant hommage à la beauté, à la richesse de l'art inuit. Ah, oh. Les absents auront tort, les ceux qui ne seront pas là. Bon, effectivement, je sais bien que on va écouter quand je vais vous dire un dernier mot à ceux qui nous écoutent avant de vous laisser partir. Et puis, moi, je vous dis, on se retrouve samedi. Je ne serai pas sur scène avec vous. Ça c'est que je serai dans la salle en train de vous écouter, de vous admirer, vous et les autres collègues musiciens. Alors, ça va être quelque chose de beau. Et puis, je vous souhaite un très bon, un très beau spectacle samedi.
Merci beaucoup.
C'est moi qui vous dis merci. Et puis le théâtre, pour ceux qui ne savent pas, l'adresse du théâtre Outremont, c'est 1248 avenue Bernard. Ouais, c'est dans l'ouest de Montréal. Oui. Ne ratez pas cette opportunité pour aller découvrir ce spectacle saïmanique.
Oui. Voilà.
Merci beaucoup.
Viens nous voir.
Ouais, je serai là, Lydia.
Parfait, merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie d'avoir pris le temps de lundi quelques mots. Merci à vous.
OK.
Au revoir. Bye. Au revoir.
Nige pawati, nige pawati, nige pawati. Nige pawati, nige pawati, nige pawati. Negan kesko weke win gagawi no aski pig squeo. Negan kisko wake when kagawi no aski pig squeo. Nige pawati, nige pawati, nige pawati. Nige pawati, nige pawati, nige pawati. Negan kisko wake.
Niki Pawatine. Merci beaucoup à Lydia Tau qui est venue nous parler de ce spectacle du samedi 29 octobre au théâtre Autremont. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas encore, qui n'étaient pas au courant, qui viennent de l'apprendre, n'hésitez pas, vous n'allez pas regretter d'avoir fait le déplacement là-bas. Continuez, je vais parler de la disparition d'une grande dame. Oui, Laurie Saint-Martin, née en Ontario à Kitchener. Morte le samedi 22 octobre 2022 à Paris. Essayiste, novelliste, romancier, critique et traductrice québécoise d'origine franco-ontarienne. Ouais. Professeur en études littéraires à l'Université du Québec à Montréal. Spécialisée des études féministes en littérature, surtout québécoise, mais aussi française, américaine et canadienne. Elle a également été membre et coordonnatrice de la recherche à l'Institut de recherche et d'études féminines de l'UQAM. Ouais, elle est originaire de l'Ontario, oui, issue d'un milieu prolétaire et anglophone unilingue, vécue au Québec depuis 1980. Elle a été admise à l'Académie des lettres du Québec peu de temps avant sa mort en octobre. Ouais, le 22, là, samedi 22, vous voyez. En collaboration avec Paul Gagné et Laurie Saint-Martin, a traduit plus de 40 romans et essais, obtenu le prix John Glasgow en 1993, le prix de la traduction de la QWF en 2004, en 2006, en 2008, et le prix littéraire du gouverneur général pour les prix de traduction de l'anglais vers le français en 2000, en 2007 et 2015. Oui, prix du gouverneur général 2000, 2007, 2015. Vous voyez, c'est que la terre lui soit légère. 2008 aussi, 2018, et ils ont gagné avec Le Monde selon Bernet, traduction de l'ouvrage de Maudessé Richelin, Bernet's Version. Puis en 2013, élu membre de la Société Royale du Canada, prix ACFAS. 2013 aussi, prix ACFAS André Lorando. Et 2003, prix Raymond Klimansky pour l'ouvrage La Voyageuse et la Prisonnière, Gabrielle Roy et la question des femmes. Ouais, elle est partie ce samedi, là, samedi passé, là, à Paris. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez, c'est comme on disait ici hier à cette émission. Bon. Avec la chroniqueuse de nutrition qui est aussi une scientifique du vieillissement, prendre de l'âge, depuis le ventre de nos mamans, on vit, on fait des pas, on se dirige vers la tombe, quoi. Chacun de nous est bien conscient. Je préfère ne pas en parler pour ne pas gâcher nos soirées. Voilà. Alors que la terre te soit légère, Laurie Saint-Martin. Ouais, repose en paix, que ton âme soit en paix. Alors, il y a quelqu'un qui se fait passer pour un concierge. Il y a un concierge aux États-Unis, au Texas. Ça, c'est vraiment, je me suis dit, il faut que j'en parle. Qui se permettait d'uriner dans les bouteilles d'eau des employés. Un concierge. Alors là, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Un homme de 52 ans qui a été arrêté à Houston d'ailleurs pour avoir uriné dans des bouteilles d'employés dans un centre médical. Et il travaille, mais tu te dis, mais qu'est-ce qu'il avait? Est-ce qu'il était malade? Non, il n'était pas du tout malade, ça, il faut le dire. Hein. Donc, l'individu avait accès à leur bureau puisqu'il était le concierge. C'est une femme qui a dénoncé les faits à la police. Elle a raconté qu'elle avait commencé à porter ses propres bouteilles d'eau au bureau, car celle qui venait du distributeur avait un mauvais goût. Oui, et était acide en plus. Si elle ne finissait pas sa bouteille, elle la laissait sur ta table pour le lendemain. Quelques jours plus tard, elle a vu que l'eau de sa bouteille aussi avait une odeur désagréable. Voilà, et j'ai jeté l'eau. Elle a jeté l'eau. C'est des choses qui ne se font pas. C'est grâce à la caméra de surveillance que ce beau monsieur de 52 ans, ce monsieur, a été pris sur les faits. Alors, faites attention aux concierges dans vos bureaux. Oui, ne laissez pas vos bouteilles d'eau et vos tasses de café comme ça. Surveillez-les. S'il y a des caméras de surveillance, activez-les pour pouvoir savoir comment est-ce que votre eau ne porte plus la même couleur ou bien n'a plus le même goût. Restez à l'écoute. Pour la suite, tout de suite après la petite pause publicitaire, je vais recevoir Marie-Julie Desrochers, qui est directrice générale de la Coalition pour la diversité des expressions culturelles, CEDEC, et secrétaire générale de la Fédération internationale des coalitions. Après la petite pause, on parlait un peu du bilan de la participation de la Fondation au Mondial Culte 2022. À tout de suite après la petite pause publicitaire.
Vous écoutez Escale 16-17 avec Fulgence Blas.
Oui, c'est la deuxième partie de l'émission et la dernière, bien sûr. Mon invité, Marie-Julie Desrochers, qui est directrice générale de la Coalition pour la diversité des expressions culturelles, CEDEC, et en même temps secrétaire générale de la Fédération internationale des coalitions pour la diversité culturelle, FICD, qui va nous parler du bilan, j'espère bien, positif de la participation de la Fédération au Mondial Culte 2022 qui s'est passé au Mexique. Alors, écoutez bien, chers auditeurs, ça, c'est quelque chose qui concerne tous les gens qui sont dans le milieu culturel, hein, oui, quel que soit musicien, cinéma, tout le monde est concerné. Elle est mieux placée pour nous parler de ça. Bonjour Marie-Julie Desrochers.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Ça va très bien, merci beaucoup pour l'invitation.
C'est moi qui vous dis merci d'avoir le temps, malgré votre emploi du temps chargé, de venir nous parler de cet événement. D'ailleurs, mais je ne sais pas, je me suis dit, mais comment elle fait? Est-ce qu'elle arrive à tenir sur le poids des deux chapeaux qu'elle porte?
Ah ben, je vous avoue que ça fait un petit 2 mois que je suis en poste, alors ouais, c'est ça me prend, faut que j'ai les jambes solides pour tenir ces deux chapeaux-là en ce moment.
Oui, directrice générale de la Coalition pour la diversité des expressions culturelles. On parlait de ça d'abord. Comment on devient directrice générale de la Coalition pour la diversité des expressions culturelles, CEDEC?
Ah bon, ben en fait c'est une très bonne question, mais moi en fait mon bagage est dans l'industrie de la musique.
Oui.
Donc au cours des 18 dernières années essentiellement, j'ai travaillé au sein de l'Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo,
oui,
qui est mieux connue sous le nom de la Disque, qui est dans les médias d'ailleurs en ce moment puisqu'il y aura son gala bientôt dans 2 semaines.
Oui, c'est bientôt, voilà. Là, oui.
Oui, donc en fait, cette expérience-là m'a amenée à travailler, dans le fond, à défendre les intérêts d'une structure industrielle locale indépendante dans le milieu de la musique au Québec, à aussi faire la promotion de la musique en français, etc. Et puis finalement, tout ça est tout à fait lié à la mission de la Coalition.
Oui.
D'ailleurs, la Disque est membre de la Coalition, donc la Coalition, elle regroupe 49 membres qui sont tous des organismes culturels canadiens. Donc, c'est des organismes de partout au Canada qui représentent autant des anglophones que des francophones,
oui,
incluant des francophones, anglophones en situation minoritaire aussi. Et puis, on représente autant les associations qui travaillent pour les entreprises du milieu de la musique, de l'audiovisuel ou même de toutes les disciplines,
oui,
que les associations ou les syndicats, en fait, qui représentent des artistes. Donc, c'est très, très, très inclusif. Mais donc, dans mon cas, moi, bien, j'ai travaillé à la DISC, j'ai été membre de la coalition, je participais à ces comités et j'étais vraiment très, très attirée par cette mission-là. Qui est de défendre la diversité des expressions culturelles dans les accords commerciaux notamment, mais aussi en ligne.
Oui, même l'UDA et l'ACTRA font partie de son partenaire, sont membres de CEDEC. C'est ce qui fait que je dis que vous êtes la mère de ce rôle, la personne la mieux placée quand on parle de culture.
Mais c'est sûr que quand je m'exprime, je parle au nom de beaucoup de monde.
Oui, alors, oui, écoutez bien, les artistes, les organismes, pas seulement les acteurs, pas seulement les artistes eux-mêmes, mais les organismes, les représentants d'organismes, puisque vous êtes actuellement à l'écoute, écoutez bien Marie-Julie Desrochers. Elle va vous représenter à l'international.
Exactement, mais en même temps, ça nous force nous à nous en tenir vraiment à quelques éléments qui sont très, très consensuels.
Oui.
Donc, voilà, hein, tout ce que, quand je me prononce, moi, je dois avoir l'approbation de l'ensemble des membres. Hein, donc, c'est des consensus qu'on porte.
Oui.
Alors, on ne peut pas s'exprimer sur tout, mais quand on s'exprime, on porte une voix très, très forte.
Oui, oui. Mais comment, et de l'autre côté là-bas aussi, comment vous êtes arrivé à cette fondation-là, la fondation des... Et ouais, comment vous êtes arrivé là-bas aussi? Parce que là, j'ai dit, c'est deux chapeaux lourds quand même. Hein?
Oui, 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 à la fédération. Mais en fait, historiquement, la coalition assure le secrétariat de la fédération.
Oui.
Donc, quand on applique, quand on postule pour devenir directrice générale de la coalition, ben automatiquement, on applique aussi, pour devenir secrétaire général de la fédération.
De la fédération internationale. Ouais.
Exactement.
C'est comme ça que vous êtes retrouvé au Mexique. Parlez-nous un peu. Voilà, c'est la raison,
oui,
pour laquelle on vous a invité pour venir nous parler de ça. Ça s'est passé les 28, 29, 30. Ça s'est passé en septembre passé. Voilà.
Exactement.
Oui.
Ça fait pas si longtemps. Donc c'était à Mexico. C'était une conférence qui s'appelait Mondiacult 2022.
Oui.
C'était un nom qui avait déjà été utilisé 40 ans plus tôt. Pour la première occurrence de Mondiacult.
Oui.
Donc, c'est une très, très grande conférence mondiale consacrée à la culture.
Oui.
En fait, l'UNESCO dit la plus grande conférence mondiale consacrée à la culture de ces 40 dernières années.
Oui.
On a été réunis pendant 3 jours. Il y avait près de 2600 participants. Et il y a 150 États qui étaient représentés. Il y avait même 135 ministres de la culture qui étaient sur place. Donc, de 135 pays différents.
La crème de la crème.
Ben, la crème de la crème, en tout cas, c'était vraiment très intéressant d'entendre chacun d'eux venir s'exprimer sur ce qu'ils considèrent être les grands défis,
oui,
en matière de culture. Les prochaines années.
Mm-hmm. Moi, je dis souvent que ce qui peut nous rassembler sur cette terre, c'est la culture.
Tout à fait.
Oui.
Tout à fait.
Alors, comment c'était votre premier grand événement depuis que vous êtes à la tête de...
Oui, en 3 semaines, c'est sûr que je ne pouvais pas espérer plus grand événement.
Comment Marie-Julie se sentait parmi ce grand monde, ce beau monde-là?
Exactement. Non, c'était quand même un bon gros baptême pour moi.
Oui.
En fait, je peux vous dire, d'abord, avant le 28 septembre, il y avait comme des journées où on appelle, où il y a des événements parallèles.
Mm-hmm.
La fédération était d'ailleurs impliquée dans plusieurs de ces événements-là. Donc, par exemple, on a participé à une conférence avec la commission allemande pour l'UNESCO,
oui,
et la chaire UNESCO pour la diversité des expressions culturelles, qui est basée au Québec, à l'Université Laval, dont la professeure titulaire est Véronique Guévremont.
Oui.
Donc, Véronique Guévremont et son équipe avaient produit un rapport qui s'appelait, qui traitait en fait du concept de culture équitable. Donc, le mandat qui avait été confié par la commission allemande de l'UNESCO, mmh, était de réfléchir à la possibilité de transférer les concepts de commerce équitable à la culture.
Wow.
Voilà.
Elle fait d'une pierre deux coups, quoi.
Oui, voilà.
Mm-hmm.
Alors, c'était très intéressant parce que c'est la première étape, en fait, d'une démarche, je crois, qui ne fait que commencer,
mm-hmm,
à en juger là, par les réactions là-bas. Mais donc, c'était de se demander, est-ce qu'on est capable de reproduire certaines de ces choses-là dans le but d'arriver à une meilleure équité entre les pays du Nord et du Sud.
Et du Sud, aussi, oui.
Voilà.
Oui,
et oui, aussi au sein des nations.
Mm-hmm.
Donc, ça peut toucher plein d'éléments. Par exemple, moi, j'animais un panel sur le concept de culture équitable en lien avec la diversité des expressions culturelles en ligne.
Oui.
Voilà. Mais c'est vraiment un début. Donc ça, j'ai l'impression que on doit se reparler, Véronique et moi, ainsi que la commission allemande de l'UNESCO, pour voir quelles seront les prochaines étapes. Mais il était question dans le rapport de peut-être mettre sur pied une charte de culture équitable, qui serait potentiellement une des premières actions à mettre en place.
Oui, j'ai lu quelque part que vous avez beaucoup mis l'accent, vous avez insisté sur les liens intrinsèques existants entre développement durable et diversité des expressions culturelles.
Tout à fait. Ça, c'était les deux autres événements parallèles auxquels on participait.
Oui.
En fait, la Fédération internationale des coalitions pour la diversité culturelle fait partie d'un regroupement d'organismes internationaux. Donc, on y retrouve aussi ICOMOS ou le réseau international des bibliothèques, par exemple. Donc, tous ensemble, nous, on plaide pour que les Nations unies ajoutent un objectif de développement durable à leurs 17 objectifs déjà définis.
Oui.
Il y en a un 18e qui serait vraiment centré sur la culture, le rôle que la culture peut jouer dans le développement durable.
Wow! Mais quand vous sortez... Donc, oui, est-ce que, si je vous demande quel est le bilan que vous en tirez, ça a été positif?
Ça a été très positif parce que dans la déclaration finale qui a été publiée par les États à Mondiacult, on y fait référence. Alors, on dit par exemple que la culture est reconnue, c'est la première fois, comme un bien public mondial. Ça, c'est la première grande reconnaissance qu'on a trouvée. Et on fait aussi état de l'importance de la culture dans les objectifs de développement durable. On dit que les États appellent à intégrer la culture en tant qu'objectif spécifique à part entière parmi les prochains objectifs de développement durable des Nations unies. Donc, je vous dirais que c'est pas encore fait, mais c'est quand même un très bon premier pas. Maintenant, il va falloir qu'il y ait des États qui décident d'en faire une priorité pour que ça puisse se concrétiser.
Ouais, comment vous pouvez les obliger à faire ça?
On peut pas les obliger.
Donc, ça, c'est entre nous, juste pour savoir. Est-ce que vous pouvez les obliger?
Non, mais on peut chercher des champions, un peu, si vous voulez, des porteurs de ballons qui accepteraient de dire, ben, nous, on va devenir un leader en la matière et puis on va mettre l'accent là-dessus.
Oui. Voilà. Wow.
Avec la commission canadienne de l'UNESCO, on a aussi participé à un événement où on présentait un coffre à outils qui vise à aider le milieu culturel canadien à s'approprier les objectifs de développement durable qui existent déjà. Donc, j'ai dit, on demande qu'il y en ait un 18e qui soit uniquement centré sur la culture.
Oui.
Il y en existe déjà 17. Et puis, chacun de ces objectifs, la culture se trouve un peu partout. Hein. Alors, on a ciblé certains de ces objectifs-là en disant, ben, le milieu culturel peut contribuer à l'atteindre cet objectif-là. Puis, on a fait mais j'étais pas encore en poste. Donc l'équipe qui travaillait là-dessus a fait un coffre à outils très concret qui va, dans les prochaines étapes, là, ce sera de le faire connaître en fait auprès du milieu culturel canadien, auprès de ceux qui souhaitent en fait améliorer leur impact sur le développement durable.
Oui, oui, oui. Il y a une date que j'ai pu retenir aussi, c'est la convention de l'UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles qui est entrée en vigueur le 18 mars 2007.
Oui.
Et dont 145 États membres de l'UNESCO ont ratifié la convention. On peut dire bravo, non?
Oui, et puis vous savez, c'est le Canada qui a été le premier à la ratifier.
Vous voyez.
Oui, alors nous, le Canada est vraiment un pays leader là-dedans. Puis en fait, c'est au cœur de la mission de la Fédération.
Oui.
La Fédération, ce qu'on fait beaucoup, c'est d'encourager puis d'essayer d'outiller la société civile à s'approprier cette convention-là.
Oui.
Alors, c'est certain que ça paraît quelque chose d'un peu théorique. Et donc, par exemple, avant mon arrivée, il y a une très belle formation qui a été faite pour l'Amérique latine en espagnol, plusieurs heures de formation où des gens expliquent comment ça peut se traduire concrètement pour le secteur culturel dans les pays d'Amérique latine.
Ouais. Ouais.
On essaie de contribuer à ça. On fait des événements un peu partout où se trouvent nos membres.
Ouais. On va revenir local, chez nous ici, voilà, avec la CEDEC.
Oui.
La CEDEC, là, avec ses différents membres, là, qu'est-ce que vous, en tant que directrice générale, où est-ce que vous mettez vos yeux? Comment vous les surveillez? Ou bien c'est les membres qui viennent vers vous?
Mais les membres sont vraiment libres de leurs actions. Mais en fait, on est une instance vraiment très démocratique.
Oui.
On a un gros conseil d'administration où il y a 40 places, en fait.
Oui.
Donc, on a moins... C'est ça. Tout le monde peut être sur le conseil d'administration, mais on a surtout beaucoup de comités de travail. Je vous dirais qu'en ce moment, un des dossiers qui nous occupe énormément, c'est le projet de loi sur la radiodiffusion.
Oui.
Le projet de loi C11 qui vise à inclure les géants du web dans la portée de la loi sur la radiodiffusion, c'est-à-dire faire en sorte que les Netflix, Google, Spotify de ce monde contribuent à la fois au financement de notre culture et à sa mise en valeur pour qu'on puisse maintenir le lien entre notre culture et le public qu'on a si bien développé.
Oui, parce que ces gens, ces GAFA, là, si on peut les appeler comme ça, mm-hmm. Oui, ces GAFA qui en mettent plein les poches, mais qui ne veulent pas vraiment payer les artistes ou bien les impôts où on passe, ça c'est une affaire fédérale. Mais comment est-ce que vous arrivez à collaborer, à vous asseoir à une table pour leur faire comprendre ouais. Les artistes ont besoin du fruit de leur travail. Comment vous arrivez à le faire comprendre ça?
Avec les gouvernements?
Oui, non, avec les GAFA. Oui.
Avec les GAFA, écoutez, ça arrive qu'on discute avec eux, mais c'est sûr qu'en ce moment, ce qu'on essaie de faire, c'est de les contraindre à respecter nos lois. Mmh. Donc, c'est vraiment avec le gouvernement qu'on discute. En ce moment, en fait, le projet de loi est quand même rendu assez loin. Il est étudié par un comité de sénateurs.
Tant mieux.
Donc, par exemple, la semaine dernière, moi, j'ai comparu au Sénat pour défendre les positions officielles de la coalition.
Oui. Wow.
Voilà. On essaie de le faire de cette façon-là. On essaie surtout de s'assurer que le projet de loi demeure le plus fort possible.
Le plus fort possible.
Mm-hmm. Parce que tout le monde essaie de faire valoir ses intérêts en ce moment.
Mm-hmm. Est-ce que, Marie-Julie, avant d'accepter ce poste, ce gros chapeau-là, est-ce que vous étiez consciente que votre vie allait se passer souvent dans les avions?
Bon, on m'avait parlé de une ou deux fois par année. Alors, on va voir. Cette année, ça va être un peu plus que ça, mais bon. Mais j'en suis ravie. C'est un privilège de porter ces voix-là.
Je pose cette question parce que je viens de découvrir, j'ai découvert aussi que vous avez annoncé que donc vous allez participer à un colloque portant sur les enjeux de la réglementation des plateformes cette fin de semaine à Moncton.
Exactement.
J'ai dit, mais elle va passer sa vie dans les avions maintenant.
Ouais, j'espère pas là, pour mon empreinte écologique.
Oui.
Mais là, vous voyez, je trouvais que c'était bien important d'aller à Moncton parce que ça va parler justement du projet de loi C11 dont je viens de vous parler, mais avec le point de vue des francophones minoritaires au Canada.
Oui.
Donc, c'est une voix que je trouvais importante, non seulement d'entendre, mais aussi en me déplaçant là-bas, ça va me permettre de rencontrer ces gens-là, ce qui me fait quand même très plaisir comme ça en début de mandat.
Oui, dites-nous un peu ce que c'est que le projet de la loi 111. C'est quoi?
Le projet de loi C11. Alors, C11,
oui.
Oui, c'est vraiment de viser, dans le fond, en ce moment, les radios, les télévisions, elles sont tenues de mettre en valeur un certain pourcentage de contenu canadien avec des règles. Par exemple, il doit y avoir un pourcentage qui est en français aussi, etc.
Oui.
Et elles doivent aussi verser une part de leurs revenus, soit en dépenses en émissions canadiennes en ce qui concerne l'audiovisuel, ou encore pour l'audiovisuel et pour la musique, il y a aussi des fonds. Donc, donne une partie des revenus qu'elles font à ces fonds-là. Puis là, ensuite, il y a des artistes, des entreprises qui peuvent aller puiser là pour faire du contenu local. Tout ce qu'on demande, en fait, c'est que les entreprises en ligne, qui sont presque toutes étrangères, soient tenues de respecter des règles. Je vais dire, c'est pas les mêmes règles parce qu'évidemment, elles fonctionnent pas de la même façon,
oui.
Mais des règles similaires et équitables, en fait.
Mmh. Oh.
Voilà.
Alors, vous allez, je sais que vous allez organiser, comment dirais-je, vous allez prendre la parole là-bas, ce qui est sûr. Vous allez prendre la parole en tant que directrice générale. En tant que directrice générale, la CEDEC,
Vous
allez prendre la parole le samedi 29 à une table ronde.
Exactement. Sur le financement de l'audiovisuel qui pourrait découler de la loi C11 lorsqu'elle sera adoptée.
Oui.
Oui, voilà. Donc, on va discuter en fait concrètement ce que ça pourrait signifier. Ça pose des défis, hein. On n'a jamais traité avec des services comme ça. Donc, quel pourcentage, par exemple, si on pense au financement des contenus audiovisuels, on peut se demander quel pourcentage de leurs revenus pourra servir à des fonds, comment sera la répartition linguistique, est-ce que ça devra être pour du contenu original, est-ce qu'il y aura une part pour les films, est-ce que l'achat de vieux contenus, là, quand on remet les films de Caleb sur Netflix, est-ce que ça compte dans nos obligations? Il y a plein de questions.
Oui.
Je vous avoue qu'on n'a pas toutes les réponses à ce stade-ci, mais c'est quand même intéressant déjà de commencer à discuter à quoi pourrait ressembler la réglementation quand elle sera en place.
Ah, oui. Avant de vous laisser partir, j'ai deux petites questions encore.
Oui.
Vous, oui. En tant que directrice générale de la Coalition pour la diversité des expressions culturelles, comment vous voyez l'avenir de la culture chez nous ici, au Canada?
Comment je vois l'avenir de la culture au Canada?
Après les 2 ans de misère avec le maudit virus.
Je nous souhaite une culture locale très forte. J'espère que les gens... Je suis désolée, hein, ça doit faire du bruit. Ça sonne. J'espère que les gens vont... Je vais essayer. J'espère que les gens vont continuer d'avoir envie de découvrir la culture d'ici. Oui. Parce que sans public, la culture, hein, s'il n'y a personne pour la consommer, pour l'écouter, pour la regarder, ben c'est triste, en fait. Donc, notre avenir, je crois qu'il devra être très local.
Oui.
Je souhaite.
Oui. Et sur le plan international, avec la FICDC, oui.
Oui. J'espère, ça vraiment, alors je vais y aller sur l'équité. Alors je crois que cette notion-là de culture équitable, j'espère qu'on sera capable partout dans le monde de faire entendre une diversité d'artistes, de leur permettre de vivre de leur art dans des conditions décentes partout dans le monde.
Je sais qu'on va se reparler bientôt parce que vous avez tellement de rencontres, vous allez nous apprendre beaucoup à découvrir ces différents organismes et puis les différents projets de loi ou bien les différentes rencontres. Compte, afin qu'on puisse, ou bien monsieur, madame, tout le monde qui connaît pas, qui n'est pas dans le milieu culturel, qui en sait très peu, comment fonctionnent ces organismes pour pouvoir découvrir un peu les ficelles, ou mais comment vous qui êtes à la tête de ces organismes, de ces fondations, pouvez nous informer au fur et à mesure pour qu'on puisse un peu dire, on sait pourquoi les gens luttent, pour que les artistes... Par exemple, j'ai suivi une émission hier soir sur ma TV, et quelqu'un a posé une question pour dire, mais pourquoi est-ce qu'ici, il n'y a pas comme les intermittents en France, où les gens ont travaillé 44 jours en tant qu'artiste, ils ont droit à un chômage. En tant que travail, pourquoi on ne peut pas impliquer ça ou pas? C'est des choses qu'on peut en discuter dans le futur, mais il faut négocier tout ça. Donc, c'est à travers vos organismes que vous dirigez, que peut-être comme ça, un jour, on arrivera à une entente pour que les artistes puissent aussi avoir le chômage avec un certain nombre de prestations à l'année pour que s'il n'y a plus rien qui marche, que la personne ne se retrouve pas dans la misère.
Ben, c'est sûr que ça fait partie de réflexions qui ont lieu en ce moment au Canada.
Oui.
Je vous le confirme.
Un dernier mot, je vous laisse le micro.
Un dernier mot, je vous remercie beaucoup. Et puis, n'hésitez pas en fait à suivre les réseaux de la coalition et de la fédération si ces sujets-là vous intéressent. On est présents sur les réseaux sociaux, puis on a aussi des infolettres qui sont très informatifs sur les développements, que ce soit ici ou partout dans le monde.
Merci beaucoup, Marie-Julie Desrochers, directrice générale de la Coalition pour la diversité des expressions culturelles, CEDEC, et secrétaire générale de la Fédération internationale des coalitions pour la diversité culturelle, FICDC. Elle nous a parlé du bilan de la participation au Mondial Culte 2022. J'espère qu'elle aura beaucoup plus à dire au Mondial 2023, au Mondial Culte 2023.
Espérons que ce ne sera pas dans 40 ans.
Ah non! Merci beaucoup à vous et à bientôt.
Merci, au revoir.
Au revoir. Merci beaucoup à toi, Mathieu Tessier. On se retrouve demain.
Tu rappes, mon cher Fulgence.
Ouais. Mathieu Tessier. On se retrouve demain. Merci beaucoup, Mathieu. Et je dis merci à Lydia Etocre, qui est chanteuse de gorge inoue, co-directrice artistique d'Octo Echo, qui est venue nous parler de Saïmanik, le chant de gorge inoue en symbiose, le spectacle qui aura lieu ce samedi 29 au Théâtre Outremont. Voilà, et puis merci à notre invitée, Marie-Julie Desrochers, qui est venue nous parler, directrice générale de la Coalition pour la diversité des expressions culturelles, CEDEC, et secrétaire générale de la Fédération internationale des coalitions pour la diversité culturelle, FICDC. Elle nous a parlé du bilan de la participation de la Fondation de la Fédération au Mondial Culte 2022. Et puis merci à vous, chers fidèles auditeurs, on se retrouve demain à la même heure sur les ondes de Canal M, et je dis merci à Catherine Bourderon, la recherchiste de l'émission. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Ah, l'adresse du Théâtre Outremont, il faut que je retrouve ça rapidement. C'est sur la rue Bernard et quelque part. Vous n'allez pas rater si vous tapez. Non, je l'avais, il faut que je retrouve dans mes documents. Je l'avais.
Moi, je l'ai, mais...
Tu l'as, vas-y.
Oui, c'est le 1248 ou 1248 Avenue Bernard Ouest.
Oui,
dans Avenue Outremont.
Oui, oui, dans l'ouest de Montréal, bien sûr. Voilà. Merci beaucoup, Mathieu. Et puis donc, voilà, pour ceux qui n'ont pas encore vu ce spectacle, là, ou bien ils n'ont pas encore vu le groupe Octo Eto sur scène, c'est une opportunité à Montréal. Voilà, n'hésitez pas le samedi 29, 20h au Théâtre Outremont. Allez-y découvrir ces artistes de tous les horizons. Hein. Voilà, c'est pas seulement des autochtones, c'est pas seulement des orientaux, c'est pas seulement des gaspésiens, c'est tout un mélange des gens de partout. Alors sur ce, je vous laisse déguster tranquillement. Ouais, qui vient? Pamela Williams, Fly Away With Me. Prenez soin de vos minutes. Et Mathieu, pour toi?
Je suis là.
Voilà.
Qu'est-ce que j'ai fait?
Prenez soin. Tendez la main à ceux qui sont dans les besoins.
Moi, j'ai pas le choix de prendre soin des minutes. Je suis metteur en ondes.
Merci à toi, Mathieu. À demain.
À demain.
Ciao.